VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 18h30, temps universel, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 1er juin 2017. Morgane Guerriac en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, Niger, 6 soldats ont été tués hier soir lors d'une attaque contre Abala dans la région de Tillabéri. Au moins 44 personnes, dont plusieurs bébés, ont été retrouvées mortes de soif en plein désert. C'était dans le nord du Niger. République démocratique du Congo, le général François Olenga, en charge de la garde rapprochée du président Kabila, vient d'être placé sur la liste noire des États-Unis. Puis Donald Trump va annoncer à 19h temps universel si les États-Unis restent ou se retirent de l'accord de Paris sur le changement climatique. Retrouvez Nicolas Pinault à la fin de ce journal pour les sports et Claire Morin-Gibourg pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. Au Niger, 6 soldats ont été tués hier soir lors d'une attaque contre la ville d'Abala dans la région de Tillabéri, près de la frontière malienne. Cette zone est le théâtre de nombreuses attaques djihadistes. Les précisions avec Jacques Aristide.
Ce sont des hommes lourdement armés venus à bord de 14 voitures tout terrain qui ont attaqué la position militaire dans cette ville. Des combats étaient toujours en cours ce jeudi dans l'après-midi entre des djihadistes présumés et les troupes nigériennes. Des avions militaires sont engagés dans les opérations de ratissage et de poursuite. Le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, a assisté ce matin à Abala à l'enterrement des victimes. Il s'agit de 4 membres de la garde nationale et deux gendarmes. La ville abrite un camp de réfugiés maliens et fait partie des zones de Tillabéri et Tawa que Niamey a placé en mars dernier sous état d'urgence en raison d'attaques récurrentes. La semaine dernière, 2 policiers et un civil ont été tués dans une attaque contre un poste de police. Les autorités ont récemment fermé une dizaine de marchés ruraux et interdit la circulation de voitures et motos dans ces régions proches du Mali et du Burkina, pour empêcher les infiltrations des terroristes.
République démocratique du Congo, le général en charge de la garde rapprochée du président Laurent Kabila vient de subir les sanctions des États-Unis. Le général François Olenga est accusé par Washington d'avoir sapé le processus démocratique dans son pays, plongé dans la crise depuis le maintien au pouvoir de M. Kabila après l'expiration de son mandat en décembre. Sous son contrôle, la garde républicaine aurait, je cite, « harcelé des opposants politiques, procédé à des arrestations et exécutions arbitraires » et entraver l'action des observateurs de l'ONU, détaille le Trésor américain. Le général Olenga voit ses éventuels avoirs aux États-Unis gelés et ne pourra pas faire des affaires avec des entités ou individus américains. RDC toujours, plus de 200 organisations appellent le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à lancer une enquête internationale sur les violences commises depuis septembre au Kasaï. Ces ONG reprochent aux autorités congolaises de se montrer incapables ou peu désireuses d'arrêter le carnage. Nouvelle manifestation la nuit passée dans le nord du Maroc. Pour une 6e nuit consécutive, les protestataires ont exigé la libération de Nasser Zefzafi, leader de la contestation qui secoue la région du Rif ces derniers mois. Et Tunisie, 4 personnes ont été condamnées à un mois de prison pour outrage public à la pudeur. On leur reproche d'avoir mangé dans un jardin public en plein Ramadan, mois sacré du jeûne musulman.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Explosion dans la ville chiite de Qatif, dans l'est de l'Arabie saoudite, rapporte l'AFP. Il faut dire que ce pays a déjà été la cible ces dernières années d'attentats meurtriers revendiqués par le groupe djihadiste sunnite État islamique. Le président américain Donald Trump doit faire connaître ce soir sa décision sur le retrait ou non des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Yacouba Ouedraogo.
Pendant sa campagne, Donald Trump avait promis de retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat signé par plus de 190 pays. Pékin et Washington, les deux principaux émetteurs de gaz à effet de serre, ont été parmi les architectes. L'accord de Paris conclu fin 2015 vise à limiter le réchauffement de la planète et ses effets dévastateurs. La question a divisé pendant le récent sommet du G7 en Sicile. Les leaders des pays riches, à l'exception du président américain, avaient réaffirmé leur engagement envers ce texte. Donald Trump, qui va parler ou tweeter ce soir, pourrait invoquer l'article 28 de l'accord de Paris. Il permet aux signataires de revenir sur leur engagement, mais en raison de la procédure, si la sortie a lieu, elle ne sera effective qu'en 2020. Alors, quittera ou quittera pas, la réponse dans un instant à 19h, temps universel.
Proche-Orient, Donald Trump renonce pour l'instant à transférer l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, contrairement à une promesse qu'il avait faite pendant la campagne. John Hindon.
Donald Trump a signé une clause dérogatoire ordonnant de conserver l'ambassade américaine à Tel Aviv pour 6 mois supplémentaires. Tous les présidents américains depuis la fin des années 90 ont signé cette dérogation de 6 mois. Le président Trump a pris cette décision pour maximiser les chances de négocier un accord entre Israël et les Palestiniens, a expliqué la Maison-Blanche dans un communiqué. Donald Trump a plusieurs fois fait part de son intention de déménager l'ambassade, mais il n'a jamais avancé de date. Les Palestiniens, des dirigeants arabes et même l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry ont mis en garde contre le risque d'explosion de violence si l'ambassade américaine était transférée à Jérusalem.
Et Proche-Orient toujours, le Premier ministre palestinien Rami Abdallah a reçu en Cisjordanie le ministre israélien des Finances pour une réunion extrêmement rare. La rencontre vise à améliorer l'économie et les déplacements des Palestiniens de ce territoire occupé depuis 50 ans. À Kaboul, l'attentat au camion piégé hier, l'une des attaques les plus meurtrières jamais commises en Afghanistan, n'est toujours pas revendiquée. Des précisions avec Ekia Badou.
Plusieurs groupes sont susceptibles d'être les auteurs. Les talibans nient toute implication. Des djihadistes pakistanais présents sur le territoire afghan, dont les talibans pakistanais Laskar el-Taïba et Harkat ul-Mujahideen sont jusque-là restés silencieux. Le groupe État islamique est présent, composé essentiellement d'ex-talibans ou d'anciens combattants d'Al-Qaïda, mais aucun de ces groupes n'a ouvertement ni implicitement revendiqué l'attentat de Kaboul. L'explosion d'un camion piégé hier matin a fait plus de 90 morts et au moins 320 blessés en ce mois de Ramadan. Au lendemain de cette attaque meurtrière, Kaboul est toujours plongé dans la stupeur. Cette fois-ci, les auteurs ont réussi à pénétrer dans le quartier le plus sécurisé de la capitale afghane, nommé Zone Verte, qui abrite ambassades, ministères et palais présidentiels.
Conflit en Syrie, la fuite des civils s'accélère alors que se précise l'offensive contre Raqqa, bastion du groupe État islamique. Quelques 800 personnes arrivent quotidiennement dans le camp de déplacés d'Ain Issa, à une trentaine de kilomètres au nord de Raqqa. C'est ce qu'indique l'organisation Médecins sans frontières. Et pendant ce temps, en Irak, la présence d'un grand nombre de civils dans les secteurs de Mossoul ralentit la progression des troupes pro-gouvernementales face au groupe État islamique. C'est ce que rapporte l'armée. Les forces irakiennes ont repris l'essentiel de Mossoul, à l'exception de la vieille ville. En France, le gouvernement prévoit d'interdire aux ministres et parlementaires d'employer des membres de leur famille, mesure prise dans le cadre d'un chantier de moralisation de la vie politique promis par le président Emmanuel Macron. 4 touristes poignardés à Zanzibar, un suspect arrêté, l'homme de 25 ans, soupçonné d'être l'auteur d'une attaque au couteau qui a fait 6 blessés dimanche soir dans un restaurant de la capitale de cet archipel tanzanien. L'incident n'est pas lié au terrorisme, estiment les autorités. Et enfin, Ouganda, Pékin réfute les accusations de trafic d'ivoire contre 2 diplomates. Ils sont soupçonnés d'avoir collaboré avec l'autorité ougandaise de la vie sauvage pour trafiquer de l'ivoire en provenance de la RDC, du Soudan du Sud et de la Centrafrique. Voilà pour le journal. Merci d'être à l'écoute de La Voix de l'Amérique. Vous écoutez donc Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Et bien sûr, sur Internet, vous nous retrouvez sur voaafrique.com. Cette rubrique quotidienne, vous la connaissez bien, l'actualité économique en Afrique. Claire Morin-Gibourg, tout de suite, la Minute Éco.
Au Tchad, 12 milliards de francs CFA ont été débloqués par l'État en guise de subvention à la Coton Tchad Société Nouvelle. Selon APA News, 9 milliards seront versés aux cotoculteurs pour la campagne de l'année dernière et le reste sera injecté dans la commercialisation du coton pour cette année. Principal acheteur du coton dans le sud du pays, Coton Tchad Société Nouvelle s'était vu refuser un crédit auprès du pool bancaire qui finance chaque année la campagne agricole à cause d'impayés estimés à 30 milliards de francs CFA. Corridor Yaoundé-Brazzaville, le Japon vient de débloquer 33 milliards de francs CFA pour la dernière phase des travaux. Louis-Paul Motazé, le ministre camerounais de l'économie, a signé hier le prêt concessionnel. Le coût total du projet est de près de 105 milliards de francs CFA, cofinancé notamment par le Cameroun à hauteur de 14 milliards et de la BAD pour 40 milliards. Un projet pilote sur la gouvernance foncière inclusive a été expérimenté avec succès en Côte d'Ivoire. Mené par le CERAP et l'animation rurale de Korogo, ce projet est axé sur la résolution durable des conflits fonciers entre les communautés rurales et la sécurisation du foncier.
Sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Coupe du monde des moins de 20 ans, fin de parcours pour le Sénégal.
Une défaite 1-0 en toute fin de match face au Mexique en huitième de finale. Il s'agissait d'une opposition entre les deux plus mauvaises attaques parmi les pays qualifiés pour le second tour. Un match terne où les Lionceaux ont joué à 10 après le carton rouge reçu par Alioune Gueye et les Aztèques accentuaient encore leur domination stérile jusqu'à la 89e minute et le jaillissement victorieux de Ronaldo Cisneros. Qualification également des Américains pour les quarts de finale après la gifle infligée aux Néo-Zélandais 6-0 dans le duel européen de la journée. L'Italie s'impose 2-1 contre la France. Les Italiens rencontreront la Zambie en quart de finale. On rappelle que la Zambie est le dernier représentant africain encore en lice dans cette compétition.
L'heure des choix pour le nouveau sélectionneur algérien.
Quelques semaines après sa nomination au poste de sélectionneur de l'Algérie, Lucas Alcaraz a communiqué une liste de 25 joueurs retenus pour le match amical contre la Guinée et la première journée des éliminatoires de la CAN 2019 face au Togo. Absent de la CAN 2017 au Gabon, Karl Medjani et Sofiane Feghouli font leur grand retour au même titre que Mehdi Zéphane, disparu de la circulation depuis plusieurs mois et qui n'a joué qu'un seul match en Ligue 1 cette saison avec Rennes. La principale nouveauté de cette liste, c'est la première convocation d'Ilyes Hassani, le défenseur de Vereya en Bulgarie.
Gros transfert en Angleterre.
Le Benfica Lisbonne et Manchester City sont parvenus à un accord pour le transfert du gardien brésilien Ederson Moraes qui rejoindra l'équipe de Pep Guardiola pour 40 millions d'euros. Le montant de l'opération fait de ce joueur de 23 ans le gardien le plus cher de l'histoire après Gianluigi Buffon acheté par la Juventus Turin à Parme en 2001 pour un peu plus de 52 millions d'euros.
La vidéo plébiscitée par la FIFA.
L'arbitrage vidéo que la FIFA espère introduire lors du Mondial 2018 est bon pour l'honnêteté dans le football. C'est ce qu'a estimé l'ancien joueur Marco Van Basten, qui est le responsable du développement technique de l'instance. Le board a autorisé en mars 2016 l'arbitrage vidéo à titre expérimental et doit se prononcer sur son adoption définitive en mars prochain. Mais en avril déjà, Gianni Infantino, le président de la FIFA, a assuré que cette nouvelle technologie serait utilisée lors du Mondial 2018, car je cite, nous n'avons que des retours très positifs.
Et le grand rendez-vous NBA, c'est ce soir.
La grande finale entre Golden State et Cleveland, ce sera ce soir. Premier match en Californie. Cleveland champion en titre contre les Warriors champions 2015. Stephen Curry contre LeBron James. Ce sont les duels à suivre ce soir.
Merci Nicolas.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Un état des lieux des relations entre les États-Unis et l'Europe après la récente tournée du président américain. Berlin parle de partenariat amoindri tant au plan commercial que militaire. Donald Trump est d'avis que les Américains ne tirent pas totalement profit de ce partenariat. Les rapports américano-européens sont-ils à la croisée des chemins après des décennies d'entente? Quels sont d'après vous les avantages ou désavantages pour l'Afrique d'un possible éloignement américain des Européens? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h30.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et de retour avec vous, Morgane Guiriec, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Retour sur ce nouveau drame de l'immigration. Au moins 44 migrants, dont des femmes et des enfants, ont été retrouvés morts en plein désert dans la région d'Agadez, dans le nord du Niger. Ces migrants morts de soif suite à la panne de leur véhicule tentaient de se rendre en Libye. 300 000 migrants ont transité vers la région d'Agadez en 2016, selon les chiffres du HCR, qui a ouvert un nouveau bureau. Pour plus de détails, Claire Morin-Gibourg a joint Benoît Moreno du HCR à Niamey.
Une fois de plus, nous sommes en face à un nouveau drame qui se produit dans le désert nigérien. On parle de plus de 40 personnes. Ce qu'il faut voir aussi en perspective, c'est que depuis le début de l'année, il y a déjà eu 13 opérations de secours menées par l'OIM et les forces de sécurité nigériennes qui ont sauvé plus de 400 personnes. Donc voilà, on est en face d'une situation qui doit être abordée comme peut-être une urgence humanitaire. Je pense qu'au bout d'un moment, il ne faut pas avoir peur des mots. Les risques qu'offre la traversée du désert ne sont peut-être pas comparables aux risques qu'offre la traversée de la Méditerranée, et aussi parce qu'ils sont très mal connus. Donc, il faut aborder ça comme une situation humanitaire au sens clair et avoir des réponses collectives appropriées dans le cadre de toutes les politiques de lutte contre l'immigration illégale.
Le HCR a ouvert un nouveau bureau à Agadez. Pourquoi et qu'est-ce que vous y faites exactement?
L'ouverture du bureau du HCR à Agadez vise à se rapprocher un petit peu de l'épicentre du flux de migration mixte. Bon, épicentre, bien sûr, qui se déplace aussi en fonction des nouvelles routes qui peuvent se dessiner en réponse au programme de lutte contre la migration illégale. En tout cas, il est important pour nous d'être à Agadez pour mieux comprendre la situation, pour mieux communiquer surtout dans le flux de migrants avec les personnes qui pourraient être des potentiels demandeurs d'asile. Parce que quand on regarde les statistiques des demandes d'asile en Europe, c'est-à-dire les statistiques des États membres de l'Union européenne, on s'aperçoit que parmi les personnes qui traversent le Niger, beaucoup reçoivent le statut de réfugié en Europe. Donc on n'est pas dans une problématique uniquement d'immigration, mais on dit bien de migration mixte, parce que certains qui font le choix de rejoindre l'Europe peuvent prétendre au statut de réfugié. Donc notre travail ici, c'est de travailler de très près avec les autorités nigériennes pour les accompagner aussi dans l'identification, la détermination du statut de réfugié. Ça, on commence, mais on a espoir parce que les autorités nigériennes sont assez engagées aussi en termes de protection internationale. Malgré les dangers sécuritaires, elles ont tout le temps respecté leurs engagements internationaux envers les populations réfugiées. On se rapproche d'Agadez aussi pour travailler plus près avec OIM. Les engagements globaux qu'il y a actuellement entre la HCR et l'OIM, notamment comme on a pu le voir récemment avec la Libye. On se rapproche du terrain, on renforce notre connaissance et en espérant très très vite mieux communiquer et mieux identifier les potentiels réfugiés dans le flux de migrants.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Démenti catégorique de l'Église catholique malienne suite à la publication par les médias de documents SwissLeaks selon lesquels trois de ses dirigeants, dont Monseigneur Jean Zerbo, récemment nommé cardinal, auraient entretenu des comptes bancaires en Suisse pendant des années. Ces comptes auraient été crédités de 12 millions d'euros en 2017. Et dans un communiqué publié mercredi, la conférence épiscopale malienne a rejeté les allégations de détournement de fonds des fidèles catholiques par le clergé. Pour des précisions, Timothée Donongmaï a joint à Bamako notre confrère Alexis Calombri du journal Les Échos.
L'Église a effectivement dit que c'est des allégations mensongères et ils ont clairement dit qu'ils n'utilisent pas l'argent sale pour prêcher la parole de Dieu. Donc là, c'est vraiment clair dans le communiqué qu'ils ont publié.
Est-ce qu'ils ont expliqué le bien fondé de ce compte en Suisse?
En fait, je pense que le débat est faussé dès le départ. Ceux qui ont fait l'article ont précisé que c'est un compte qui a été fermé il y a 10 ans. Donc, où est la valeur informative d'un tel texte?
Y aura-t-il d'autres réactions de l'Église en dehors du communiqué de mercredi?
Oui, il y a énormément de réactions à Bamako. On a un peu lié tout cela au fait que l'archevêque de Bamako vient d'être créé cardinal par le pape. Donc, on essaie de le salir le plus possible. Sinon, vraiment, un prêtre va planquer de l'argent. Pourquoi? Pour ses vieux jours, il est pris en charge. Pour sa famille, il n'a pas d'enfant à hériter de lui. Tout ce qu'il possède, si jamais il possède quelque chose, revient à l'Église à son décès.
Comment les les Maliens réagissent-ils à cette controverse?
Non, mais sans distinction de confession, certes, il y en a qui étaient assez dubitatifs, mais en général, les Maliens ont été très choqués et très indignés par cette volonté manifeste de salir toute la communauté.
Qu'en est-il des catholiques maliens?
Alors, les chrétiens se réunissent pour voir comment réagir, quelle est l'attitude à apporter, mais dans tous les cas, spontanément, tout le monde a apporté son soutien aux clercs et à ses responsables.
Alexis Calambry du journal Les Échos, joint à Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Sénégal, une enquête a été ouverte à la suite de la diffusion d'une image jugée offensante pour le président sénégalais Macky Sall. Une jeune femme et trois autres personnes ont été arrêtées et certains affirment que c'est pour une caricature. Cette affaire fait la une de la presse locale. Pour en savoir davantage, Idriss Fall a joint Alassane Samba Diop, directeur de la radio RFM à Dakar.
Non, ce n'est pas une caricature qui a été publiée dans WhatsApp, c'est un photomontage qui met le président dans une posture innommable. C'est des photos pornographiques qu'on a prises avec un homme, avec tous ses attributs, où on a pris la tête de cet homme-là, qu'on a monté avec la tête du président Macky Sall, et qu'on a distribué dans les réseaux sociaux, dans WhatsApp. Nous avons eu le privilège de constater, avec les services de renseignement de sécurité de cette affaire, inacceptable dans un pays musulman et dans un pays même où on doit respecter les droits de l'homme. Et le président mérite qu'on lui donne le respect qu'il fait à son rang.
Mais comment se fait-il que dans le traitement, les journaux sénégalais ne parlent que de caricatures et j'ai même entendu sur une télévision locale des gens demander la libération de cette dame?
Voilà le mal de la presse sénégalaise aujourd'hui. Beaucoup de journalistes n'ont pas pris le temps de vérifier l'information, d'aller à la source pour savoir exactement ce qui s'est passé. Tout le monde a parlé de caricature, alors que ce n'est pas de la caricature. Ça montre encore une fois la maladie de la presse sénégalaise d'aujourd'hui, où des gens ne vérifient aucune information, vont directement sur la base de rumeurs, écrire et parler sans pourtant aller à la source de l'information. La caricature qu'ils ont mise, c'est une caricature de Odia, caricature dans des journaux. Le Sénégal a toujours fait des caricatures depuis le politicien de Mamadou Dia jusqu'à présent. Aucun journaliste, aucun dessinateur n'a été convoqué à la police pour la caricature. Ce qui s'est passé, c'est un photomontage où on montre le président de la République, Macky Sall, avec des photos pornographiques manipulées et distribuées dans les réseaux sociaux. Dans tous les pays du monde, moralement, personne ne peut accepter qu'on traite une personne de cette façon, à fortiori le président de la République. Et j'ai demandé à beaucoup de mes confrères, mettez-vous à la place de Macky Sall et de ses enfants. Si c'était votre père et votre maman qui a été traité ainsi, est-ce que vous l'auriez accepté?
D'autant que ces mêmes confrères ont vu, après les caricatures du prophète Mohammed et la suite qui a eu lieu avec le journal Charlie, il est parti lui-même à Paris dire « Je suis Charlie ».
Absolument. Ici, on ne peut pas parler de caricature. C'est un photomontage. Il y a une différence fondamentale entre des caricatures et un photomontage. Le photomontage, la volonté de nuire, elle est manifeste. Elle a été faite, mise sur les réseaux sociaux. Les politiciens, en mal de popularité, se sont saisis de la question, en faire ensuite des radios, qui n'ont même pas eu de temps et la responsabilité de vérifier ce qu'ils disent. Aujourd'hui, quand la vraie information sort, la plupart d'entre eux ont les murs.
Voilà, c'était Alassane Samba Diop, directeur de la radio RFM à Dakar.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Rwanda, la RURA, l'autorité de régulation des médias du Rwanda, a estimé que la commission électorale n'avait pas le mandat pour contrôler les publications de campagne des candidats à la présidentielle d'août sur les réseaux sociaux. Cette mesure a été critiquée comme une atteinte à la liberté d'expression. Solange Nyamulisa a joint Jean-Claude Tezimena, secrétaire général du Parti démocratique vert.
La RURA ici au Rwanda a fait une communiqué disant que la Commission électorale nationale du Rwanda n'a pas la compétence de régler et de poursuivre ces communiqués sur les médias sociaux. Donc, c'est la responsabilité de la RURA.
pourquoi la Commission électorale nationale veut voir à l'avance les messages qui seront publiés sur les réseaux sociaux par les candidats pendant la campagne électorale.
C'est vraiment une chose étonnante parce que jusqu'à maintenant, même la ministre des Affaires étrangères, Mme Louise Moshichiwaro, a dit qu'il n'accepte pas ce que la Commission électorale nationale a dit. Mais jusqu'à maintenant, pour nous, pour le parti de Rwanda, on disait que ça ne suffit pas ce que la ministre a dit. Jusqu'à maintenant, le gouvernement montre qu'il n'est pas pour, avec le communiqué de la Commission électorale nationale du Rwanda. Mais c'est écrit dans leur règlement qui concerne les élections, qui veut dire que ce qui est bon, c'est de changer tous les écrits qui étaient là, donc, parce que les écrits sont valables plus que les paroles.
Donc, vous voulez dire que cette décision est toujours valide tant qu'elle reste écrite, c'est ça?
Oui, les décisions de la commission électorale sont écrites, ce sont des lois qui peuvent arrêter les candidats qui étaient aussi arrêter la liberté d'expression pour les citoyens du Rwanda. Ça se concerne les élections. Ça veut dire que ce qui est mieux, c'est de changer tout les lois et les règlements qui ont été déclarés, qui sont écrits dans les livres. En changeant toutes ces lois et les règlements, ça sera une bonne décision. Même la Commission électorale nationale du Rwanda, jusqu'à maintenant, ils n'acceptent pas ce qu'ils ont dit. Alors que ce sont des choses qui sont écrites, qui sont là.
Et vous, qu'est-ce que vous faites par rapport à cette décision?
Comme le Parti démocratique du Rwanda, on avait déclaré que si le gouvernement ne change pas, ou bien la Commission électorale nationale, qu'on peut même porter une plainte dans le tribunal du Rwanda. On était en train de consulter les avocats pour voir comment on peut poser donc notre plainte.
Est-ce qu'il y a une enquête qui a été faite par rapport à la publication des photos de la candidate Diane Shima Rwigara?
Enquête faite par qui? Par Diane Shima ou bien par l'État?
Disons par l'État.
Non, il n'y a pas cette enquête maintenant. Je ne pense pas qu'il y ait une chose pareille comme ça.
Voilà, c'était Jean-Claude Tezimana, secrétaire général du Parti démocratique vert.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Wake up, stand up Africa. Comme un sababa. Comme une donne. Lubarenga am lubarenga man manula na peni imentive is your wealth imentive how your dreams sekulchi atuna seteri isua manula leni say way at say pet teranga say dom manula
Voilà, on se quitte en musique. Youssou N'Dour, Africa Dream. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde Sims, à la présentation Morgan Guiriec, la console Tian Wan. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.